France Inter.
N'êtes-vous pas gourmande ?
À me rendre malade.
Bon, voici deux sonnets de Monsieur Bincerade que je vous remplis de darioles.
Ouf !
Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou ?
Oui.
Vous aimez les gâteaux frais ?
J'en suis férue.
Veuillez aller manger tout ceci dans la rue.
Mais...
Et ne revenez qu'après avoir fini.
Moi aussi, j'aime le gâteau que l'on nomme Petit Chou dans Cyrano de Bergerac, le film de Jean-Paul Rapneau avec Gérard Depardieu. Mais j'aime aussi le fameux macaron parisien, le flan parisien, l'opéra, le Saint-Honoré, le Paris-Brest. S'il y a une ville qui sacre le sucre à toutes les époques de son histoire, c'est bien Paris. Le génie de Paris en matière de pâtisserie, mais aussi le génie de Paris côté boulangerie.
Bonjour, madame, je vais vous prendre une baguette.
Le croissant, la brioche, la baguette sont quelques-uns de ces emblèmes comestibles qui ont fait le tour du monde. D'Antonin Carême, le grand architecte du sucré au 19e siècle, à Fiona Leluc, fameuse pâtissière qui va nous faire goûter son merveilleux flan, décryptons la légende parisienne de la pâtisserie et de la boulangerie avec Stéphane Sollier, professeur de lettres et spécialiste de la représentation de la nourriture dans la littérature, le cinéma et la culture populaire.
Dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes.
Paris, ripaille. Épisode 4, des gâteaux et du pain. Commençons par le pain, Stéphane Sollier. Pourquoi Paris a toujours eu une histoire intime avec le pain ?
Le pain est l'aliment roi dès le Moyen-Âge et durant tout l'Ancien Régime, dans les campagnes et les villes, mais particulièrement à Paris, où on le préfère très blanc. Dès le Moyen-Âge, une grande variété de pain enrichi, dit de fantaisie, au lait, au beurre, aux œufs, est proposée aux habitants de Paris. Ces pains de fantaisie, de forme et composition diversifiées, s'imposent au XVIIe, puis au XVIIIe siècle. L'un d'eux s'impose particulièrement et a un grand succès. Il s'agit du pain mollet, à la levure, qui, plus léger et plus tendre, suscite une véritable passion à Paris jusqu'au siècle des Lumières, avec des petites controverses, puisque l'utilisation de la levure de bière, notamment, a suscité des procès, parce qu'on considérait que c'était très mauvais pour la santé. La capitale va se doter de pains de plus en plus élaborés, du pain viennois, introduit à Paris à la moitié du 19e siècle, au pain très blanc des années 1950, en passant par la très célèbre baguette parisienne.
Quels étaient les atouts de cette farine blanche ?
L'avantage de ces pains à farine plus raffinée, évidemment, ce sont des pains plus légers, plus alvéolés, plus tendres à manger, qui se conservent moins, mais donc que l'on consomme un peu au quotidien.
Et ça, ça signait une forme de modernité boulangère qui était portée précisément par Paris. Et à travers notamment un totem qui est tellement connu qu'il a été classé il y a peu au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est notre fameuse baguette nationale, mais qui est d'abord d'origine parisienne.
Quelques centimètres de savoir-faire passés de main en main, il y a exactement l'esprit du savoir-faire français.
On n'a pas classé la baguette comme baguette parisienne, mais comme baguette française. Pourquoi ? Parce que la baguette, très vite, dès les années 50, va contaminer le territoire hexagonal et pas seulement hexagonal et va satisfaire la clientèle des boulangeries des années 60 jusqu'à nos jours.
Comment a été inventée cette baguette de pain ?
En fait, l'émergence des pains longs est déjà sensible en 1600. On en a un témoignage par l'agronome Olivier de Serres, qui témoigne de la présence de pains longs dans le panorama de la boulangerie à Paris. Au XVIIIe siècle, les pains de forme allongée font partie de la gamme ordinaire des productions boulangères. Et on a des planches qui vont être reprises dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, où l'on voit déjà ces formes longues de pains.
D'où vient ce goût pour les pains allongés ?
Les pains allongés, ils permettent en fait d'avoir une surface plus importante de croûte appétissante par rapport à la mie. Et le terme que l'on va utiliser dès le XVIIIe siècle pour ces pains longs, c'est le terme de flûte. Au début du XIXe, Grimaud de la Reynière, le premier journaliste gastronomique, va vanter les très bonnes flûtes de battu, ce boulanger de la rue Saint-Denis, qu'il considère comme le meilleur boulanger de Paris. Ces flûtes vont se distinguer dès la première moitié du XIXe par leurs caractéristiques de flûtes crevées, c'est-à-dire des flûtes sur lesquelles on va appliquer ce que plus tard on va appeler des grignes, c'est-à-dire ces incisions qui vont être la marque de nos futures baguettes.
Comment cette baguette est devenue aussi populaire ?
La baguette devient un totem d'abord parisien, puis français, par le regard des étrangers. En fait, dès la première moitié du 19e siècle, c'est le regard des Anglais sur ces étranges pains roulés, ils appellent ça « roll of bread », dans les hôtels parisiens, qui va fasciner les Anglais, puis les Américains, qui vont y voir une spécificité de la boulangerie parisienne et de la boulangerie française, et qui vont associer d'abord Paris, puis la France, avec ce type de pain allongé, roulé, et on va le retrouver notamment dans la littérature. Alors Zola nous parle déjà, dans Le Ventre de Paris, d'une boulangerie qui a à sa vitrine des longs pains qui sont disposés pour attirer le chaland. Mais on a par exemple des auteurs comme John Steinbeck, qui dans les années 50 a vécu un petit peu à Paris et qui est fasciné par la vision de ses clients, notamment de ses enfants, qui se promènent dans les rues de Paris avec des baguettes en forme de fusil, et il raconte un épisode où un enfant se plante devant un garde républicain du palais du président de la République, et le garde républicain se met au garde à vous, et l'enfant se met lui aussi au garde à vous. En fait, ça va créer une sorte d'image stéréotypée du Parisien avec sa baguette, qui va nourrir notamment l'imaginaire mondial à travers les photographies. On pense aux photographes humanistes comme Doisneau, comme Cartier-Bresson, Willy Roniz, et on a ces images d'enfants avec ces grandes baguettes qui dépassent leur petite taille.
His name, Lionel Poulin,
was probably the most famous baker in Paris.
Et il y a pourtant, dans le paysage parisien, des boulangers et même des dynasties boulangères qui ont construit leur légende contre la baguette.
Oui, au cours des années 80, hein, dans le sillage de, justement, certaines dynasties, nous allons avoir une proposition de pain plus naturel, à base de levain, de pâtes peu pétries, longtemps fermentées, cuites au feu de bois.
Avec des farines moins raffinées.
Moins raffinées, et on peut penser évidemment à la dynastie Poilane, typiquement parisienne.
C'est peut-être bien l'un des patronymes les plus célèbres de France en matière de pain. Et Poilane, c'est effectivement une famille qui a vraiment marqué l'histoire de Paris.
Oui, alors l'ancêtre, celui qui va lancer cette dynastie, Pierre-Léon Poilane, n'était pas parisien, c'était un boulanger normand, et en 1932, il monte à Paris, il ouvre sa boutique rue du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement, et il refuse d'entrer dans la mode, justement, du pain blanc qui fait fureur à l'époque à Paris. Il propose des miches de pain à la mie grise, bise, faite avec une farine de meule. Et le succès va être immédiat. Il va notamment fournir les bistrots et les restaurants parisiens.
D'où l'apparition dans les bistrots, les troquets parisiens, du fameux croque-poilane, un croque-monsieur.
Avec cette forme typique de tartine
allongée, ouais.
Allongée, qui est prise dans une miche de pain et non pas dans une baguette ou dans un pain demi-carré. Son fils, Lionel, va lui succéder et va poursuivre sa défense du bon pain contre les standards industrialisés. Il dépose même en 1974 la marque qu'il va développer notamment à l'étranger. Dans les années 80, il fait même construire une manufacture à Bièvre, en Essonne, d'où sortent encore aujourd'hui plusieurs tonnes de pain par jour. En 2002, à la mort de Lionel, ce sont ses filles, Apollonia et Athéna, qui vont reprendre le flambeau. Et elles vont développer l'entreprise, elles vont l'ouvrir même à la création, puisque à côté de comptoir Poilane, on a même la fabrication de pain, la farine de maïs, etc. Donc on a une dynastie qui perpétue ce goût du bon pain.
Ouvrons maintenant le chapitre le plus surréaliste de l'histoire de la maison Poilane. Apollonia Poilane, la fille de Lionel, et l'un de ses chefs boulangers se sont lancés le défi en 2023 de reproduire presque à l'identique un meuble en pain, P-A-I-N, qu'un célèbre artiste a commandé en 1971 à son ami Lionel Poilane.
Je vais faire un meuble pour Dali, pour Salvador Dali. Alors ça, c'est un élément, c'est la porte.
Un meuble en pain.
Un meuble en pain, oui.
Vous avez l'habitude de ce genre d'ouvrage ?
Eh bien, là, je viens de lui faire un pain de 4 mètres de long. Il m'a demandé une télévision, mais je me heurte à des problèmes techniques. Pour la télévision, c'est compliqué en pain. Et vous savez, c'est pas du gâteau.
Effectivement, c'est du pain azyme. Sans levain ni levure, nous a précisé M. Poilane, le boulanger. 35 kilos de farine ont été nécessaires pour ce buffet espagnol du XVIIIe siècle, qui mesure 1,70 m et pèse entre 50 et 55 kilos selon le degré d'humidité de l'air.
Patrice Huard, compagnon boulanger, je suis arrivé à 22 ans chez Poilane et j'ai 53.
Donc combien d'années de maison ?
Oh, dans les 30 ans. Alors là, on est devant l'armoire qui est trois quarts finie, on va dire. Il reste plus qu'à mettre les montants de porte, et en espérant que rien ne bouge, évidemment.
Et là, on parle d'une armoire qui a vraiment été créée pour Salvador Dali, c'est ça ?
Ouais. C'est un très grand ami de Lionel Poilane.
Et là, on est sur l'exacte copie ?
Au niveau peut-être décor, il y a peut-être un peu de changement, mais au niveau hauteur, largeur, c'est exactement la même pièce.
Et comment vous avez retrouvé, il y a des plans ? Comment vous avez fait pour reproduire cette pièce ?
On a exactement les plans au bureau. Les décors d'Ali et les mesures sont avec.
C'est ce que j'ai fait depuis mon entrée en France, un bout de pain d'un réalisme hyperesthésique et que maintenant les psychanalystes disent que c'est le tableau le plus symptomatique et le plus plein de mi. De mi dans le sens qu'on peut en extraire enfin, des trésors d'informations cybernétiques.
Donc ça veut dire que toutes vos pièces, vous les cuisez sur des plaques de cuisson, et ensuite vous assemblez, vous collez.
À plis, voilà. Là, il y a des poignées que j'ai fait. Au lieu de mettre une simple poignée ronde, j'ai fait un épi de blé qui se courbe. Bon, ça ressemble comme un tiroir qu'on peut tirer. Évidemment, il ne faut pas y toucher.
Il y a un niveau de détail dans tout le décor floral. Il y a des épis de blé, des fleurs. C'est assez impressionnant. Tout est en pain, là.
Là, tout est en pain.
Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'armature en bois.
Si. Sinon, ça casserait.
Ah oui.
Mais recouvert, tout en pain. Tout est en pain. Là, ce que vous voyez, la porte, elle va s'ouvrir. C'est comme un vrai meuble. Il pourrait mettre des livres dedans et puis l'ouvrir et prendre ses livres.
Mais Salvador Dali et Gala se sont vraiment servis de ces meubles comme des vrais meubles. C'était pas uniquement un décor.
Il faudrait refermer la porte pour le mettre légitimement. Alors je vous remercie parce que je sais que c'est un cadeau de Noël pour l'arrivée de Gala. Et après ça va se compliquer puisque c'est certain que nous vivons un moment historique, tant pour vous que pour moi. C'est le début de tout un mobilier dans le matériel le plus noble et le plus obsessif à ma vie, que c'est le pain. Je vous remercie de la part de Gala qui est dans son château. J'espère qu'il aura tout un appartement meublé en pain.
J'essaye de sortir la plaque du four, mais là, ça fait son poids.
La plaque de pain, elle est coincée entre deux plaques de métal.
Voilà, entre deux plaques de métal et ça évite tout ce qui est bulle.
Et là, en chariot, vous l'emmenez dans votre atelier.
Voilà, c'est mon plan de travail, si vous voulez.
Ah là, vous avez sorti votre mètre ?
Ah, il faut être équipé. C'est un mètre de long, donc c'est les parties côtées, sur 35 de large. Voilà, j'ai retiré la plaque du dessus, je retire les papiers du cuisson. Voilà, c'est ces petits dépôts-là qu'il faut cacher.
Ouais, mais ça a l'air assez nickel quand même, non ?
Alors, faut cacher. Ah non, c'est pas nickel, nickel. Moi, ça me convient pas. Voilà.
Bonjour.
Bonjour, François Lévis.
Racontez-moi, c'est né d'une rencontre entre votre papa et l'artiste, au début des années 70. Et comment a été formulée la demande à votre père ? Vous en savez plus ?
Alors écoutez, je connais pas tous les détails, mais il paraît que Salvador Dali voulait savoir s'il avait des souris chez lui. Ce qu'il avait certainement après, parce qu'avec de la pâte à pain, forcément, plus d'une souris, on se dire que c'était quand même plutôt un bon plan d'habiter chez Salvador Dali.
Et c'était où chez lui ?
Alors bah, chez lui, à ce moment-là, c'était l'hôtel Meurice, rue de Rivoli.
Rien que ça ?
Rien que ça.
Il y vivait avec Gala, c'est ça ?
Exactement. Et ce mobilier, c'était aussi une commande pour impressionner sa compagne.
Meuble en pain, est-ce que vous avez une idée de la façon dont a reçu cette demande votre papa ?
Alors, mon père, qui avait beaucoup d'humour et qui surtout adorait les défis, Ils ont quand même essayé de faire une télévision en pain. Donc, je pense que les deux se sont bien amusés. Je pense que mon père était entre challengé, amusé, mais surtout plein d'enthousiasme, parce que c'était aussi son métier, son savoir-faire, et puis quelque chose qu'il aimait partager.
Dites-moi plus sur cette pièce incroyable. C'est Salvador Dali qui l'a dessinée à l'origine ?
Alors, pas du tout. Ce qui est très, très rigolo avec cette chambre à coucher en pin, et plus particulièrement la commode que mon père a faite, c'est qu'il s'est basé sur un mobilier typique espagnol. Elle est complètement modelée sur celle qu'avait mon grand-père chez lui. Depuis qu'on a fait ce meuble et cette chambre à coucher en pin pour Salvador Dali, notre arrière-boutique au 8 rue du Cherche-Midi a un chandelier en pin.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Patrice ?
Non, Pat.
On vous surnomme Pat ?
Ouais, Pat.
Quand on est boulanger, c'est pas mal.
Ouais. Patrice, c'est rare qu'on me dise Patrice, sauf la patronne. Non, là, je suis en train de faire une gerbe, justement, pour le côté.
Alors, il y a des tiges d'une certaine couleur.
En seigle, qui va ressortir un peu marron à la cuisson. Et les feuilles vont ressortir un peu plus blanches.
Comment vous les faites, là, vos feuilles ?
Ben là, c'est un emporte-pièce que j'ai fait moi-même à la maison. J'ai pris un morceau de bois. J'ai gravé comme une feuille de vigne ou une feuille.
C'est une espèce de tampon en quelque sorte.
Voilà, c'est comme un tampon. Et on a la feuille qui est serrée nue à l'intérieur, exprès.
Incroyable.
C'est un gain de temps. Mais généralement, je fais tout à la main. Généralement, je fais tout, des feuilles, des roses, tout ça, je fais tout à la main.
Apollonia, est-ce qu'on a une idée du nombre d'heures nécessaires à la réalisation de cette commode espagnole ?
Alors franchement, ça se compte en centaines d'heures. Je pense qu'on pourra vous le dire quand on aura tout à fait terminé. On a voulu vraiment prendre notre temps pour qu'on puisse être un peu plus résilient s'il y a un panneau qui se casse la figure. Bon, on est super excités de vous montrer notre savoir-faire, mais on a aussi la conscience du travail que ça représente. Et puis, c'est une façon de commémorer la rencontre avec Salvador Dali, leur savoir-faire, l'intelligence et puis l'originalité de leur réflexion. Et puis derrière, tout le savoir-faire des compagnons de la maison. On a de véritables artistes dans notre maison. Patrice en fait partie. Et c'est aussi ce qui fait Poilane.
Vous avez des nouvelles de la plaque, Patrice ?
Tout va bien.
Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose, Patrice, si je mets un petit oiseau comme vous le faites souvent ou pas ?
Affirmatif.
Apollonia Poilane qui apporte aussi sa touche. C'est un peu comme de la pâte à modeler ?
C'est complètement de la pâte à modeler. Donc en fait, on incite en fait tous les enfants, petits ou grands, à prendre un peu de pâte à pain renforcée d'une farine ou même tout simplement faire une pâte à sel et s'amuser avec, parce que c'est vraiment la pâte à pain devient un médium ici.
Voilà comment la maison Poilane a redonné vie à la fameuse commode espagnole de Salvador Dali. 52 ans quand même après sa création, ce fut un sacré défi technique pour Apollonia Poilane et ses équipes dans leur manufacture de Bièvre dans l'Essonne. Stéphane Saulier, sacré Salvador Dali quand même, hein. Cet artiste qui a une relation à la fois alimentaire et artistique très très intense avec le pain.
Oui, il était fasciné par le pain, qui était au centre de ses obsessions érotico-nutritivo artistiques.
Ah, carrément.
Ah oui, cet aliment, en fait, ce qui le fascinait, c'était à la fois sa dimension religieuse, évidemment, parce que ça renvoie au pain de l'Eucharistie, mais aussi la couleur et l'élasticité évoquaient pour lui la chair humaine, la peau féminine notamment, et ce pain l'avait déjà inspiré pour le portrait de Gala en 1945, avec ses bras en forme de corbeille à pain, comme ça, et donc il y avait cette idée que le pain avait toute cette dimension. On a même des photos de Dali à la Foire de Paris en 1958, qui se promène en portant un pain, il dit triomphaliquement...
Vous l'imitez très bien.
Oui, j'essaye. Mais donc, il jouait avec le pain, c'était un objet artistique, en même temps qu'un objet de fantasme.
À mi-chemin entre la boulangerie et la pâtisserie, il existe un savoir-faire qui semble aussi typiquement parisien, c'est la viennoiserie, même si il y a dans ce mot le nom d'une ville qui n'est pas vraiment Paris. Mais alors, viennoiserie, Paris... Donnez-nous une définition de la viennoiserie, Stéphane Saulier.
Alors, la viennoiserie, si on voulait simplifier, on dirait que c'est une boulangerie sucrée, en quelque sorte. Mm-hmm. En fait, ce sont des produits de boulangerie dont la technique de fabrication se rapproche de celle du pain, mais auxquels les ingrédients des œufs, du beurre, du lait, de la crème, du sucre donnent un caractère plus gras, plus sucré, qui le rapproche pour le coup de la pâtisserie.
Dans Viennoiserie, il y a Vienne. Alors évidemment, on ne parle pas de la ville de l'Isère, mais plutôt de la capitale de l'Autriche. Ça a donc un rapport avec l'Autriche ?
Oui, ça a un rapport avec la capitale autrichienne. Effectivement, en fait, l'histoire est un peu complexe, mais on peut dire on rattache la naissance de la viennoiserie parisienne à l'aventure entrepreneuriale d'Auguste Zang, cet officier autrichien qui s'est associé avec un noble de sa ville d'origine, hein, pour ouvrir à Paris, dans les années 1837-1839, une boulangerie viennoise, hein, c'était son nom, qui était installée rue de Richelieu et dont le succès a vite inspiré une foule d'imitateurs. En fait, on y trouvait des pains jaunes, dorés dessus et dessous, comme des brioches, ancêtres de nos pains viennois, mais aussi de la pâtisserie française ou étrangère, plus spécialement celle de Vienne, notamment les Krapfen, les Strudel. Et la clientèle parisienne va avoir une sorte de passion pour cette nouvelle offre boulangère à Paris, et les boulangers parisiens vont s'inspirer de ces préparations pour développer ce que l'on appellera les viennoiseries en utilisant la pâte feuilletée levée à la française.
Dans le répertoire de la viennoiserie parisienne, allez, citons quand même quelques produits célèbres.
Ah ben, on peut parler évidemment du pain viennois, mais le croissant, le pain au chocolat...
Vous dites pain au chocolat, vous ?
Ah, je dis pain au chocolat ou chocolatine, ça dépend. Moi, ma boulangerie de quartier sous chez moi est une boulangerie aveyronnaise, je demande une chocolatine. Mais ailleurs, je demanderai un pain au chocolat. Je n'ai aucun problème à prononcer les deux.
Pain viennois, pain au chocolat...
Boule de Berlin, la brioche...
Pain au raisin ?
Le pain au raisin, le palmier, la pâte d'ours, le sacristain, le suisse, ce rectangle de pâte briochée qui est garni d'une crème pâtissière. Bref, quand on voit une devanture de boulangerie, ce qui saute aux yeux, d'abord, ce sont les viennoiseries.
On s'est réveillé le premier. Avec une prudence de guetteur indien, on s'est habillé, faufilé de pièce en pièce. On a ouvert et refermé la porte de l'entrée avec une méticulosité d'horloger. Voilà, on est dehors, dans le bleu du matin ourlé de rosée. Un mariage de mauvais goût s'il n'y avait le froid pour tout purifier. On souffle un nuage de fumée à chaque expiration. On existe, libre et léger sur le trottoir du petit matin. Tant mieux si la boulangerie est un peu loin. Kerouac, main dans les poches, on a tout devancé. Chaque pas est une fête. On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme si c'était la marge qui comptait, le bord des choses. C'est du temps pur, cette maraude que l'on chipe au jour quand tous les autres dorment. Presque tous. Là-bas, il faut bien sûr la lumière chaude de la boulangerie. C'est du néon en fait, mais l'idée de chaleur lui donne un reflet d'ambre. Il faut ce qu'il faut de buée sur la vitre quand on s'approche, bonjour, et l'enjouement de ce bonjour que la boulangère réserve au seul premier client. Complicité de l'aube. 5 croissants, une baguette moulée pas trop cuite. Le boulanger, en maillot de corps fariné, se montre au fond de la boutique et vous salue comme on salue les braves à l'heure du combat. On se retrouve dans la rue, on le sent bien, la marche du retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre. Un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude, par ce paquet de croissants tenu de l'autre main. Mais on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid, tout en marchant, c'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur. Comme si l'on devenait soi-même four, maison, refuge. On avance plus doucement, tout imprégné de blond, pour traverser le bleu, le gris, le rosé qui s'éteint. Le jour commence et le meilleur est déjà pris.
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, Philippe Delerme, 1997. Intéressons-nous à une première viennoiserie parisienne qui, là aussi, s'est vraiment diffusé dans le monde entier, c'est ce fameux croissant.
Et oui, le croissant, alors l'histoire du croissant parisien, pas parisien, en fait, l'auteur autrichien Antoine Schenbenbogen, dans son livre sur cuisine et pâtisserie austro-hongroise avec un aperçu de la boulangerie viennoise et française, en 1896, donne pour la première fois cette fameuse légende de l'invention du croissant à l'occasion du siège de Vienne en 1683 par les Turcs et, pour célébrer la victoire, aurait confectionné ces pains en forme de croissant. D'autres rapportent le fait que le croissant serait arrivé en 1770 en même temps que Marie-Antoinette d'Autriche. En fait, on sait que des gâteaux en forme de croissant existaient déjà dans la capitale française avant ces événements. On a un témoignage, par exemple, d'un banquet de Catherine de Médicis en 1549 où il y a 40 gâteaux en croissant. Alors, on ne connaît pas la recette. Évidemment, on ne sait pas si c'est un ancêtre direct de notre croissant. Il faut en fait attendre le 19e siècle où tout se joue parce que le croissant apparaît dans différents écrits, notamment des Anglais qui rapportent qu'ils ne trouvent à Londres rien de semblable et rien de comparable avec les croissants que l'on trouve dans les boulangeries parisiennes. Le Littré évoque en 1863 un petit pain ou petit gâteau qui a la forme d'un croissant. En fait, au 19e siècle, les croissants sont de fabrication différente et notamment le croissant de la Belle Époque est des plus variés. On ne connaît pas celui, par exemple, que mangeait Proust. Il avait une adoration pour le croissant. Il fait même entrer le croissant dans la littérature, puisqu'on sait que Madame Verdurin, qui était migraineuse, mangeait des croissants au petit déjeuner. On ne sait pas de quoi étaient composés les croissants. On a des témoignages qui montrent qu'ils pouvaient être d'une pâte fine tordue, à base d'amandes ou de sucre, au chocolat ou au pignon. On a même des croissants à pâte à savarin, siropés, glacés au rhum. C'est Schenbenbogen, en 1896, qui évoque pour la première fois une recette de croissant à pâte feuilletée. C'est cette version feuilletée qui va finir par s'imposer à tous, au beurre bien sûr, mais aussi à la margarine pour la confection de ce qu'on appelle aujourd'hui le croissant ordinaire.
Pour savoir où déguster un bon croissant, j'appelle toujours mon amie Marie-Laure Fréchet, journaliste gastronomique installée à Arras, dans le Pas-de-Calais. Elle est spécialisée dans le pain et la viennoiserie, et quand elle arrive dans la capitale par le train, elle fait souvent une pause croissant à la maison Carton, juste à côté de la gare du Nord, dans le 10e arrondissement. Je vais tenter de percer avec elle le secret de ce croissant, considéré comme l'un des meilleurs de la capitale.
Bonjour.
Salut, ça va?
Tu arrives de Lille?
Exactement, ouais. Gare du Nord, ma gare préférée. Et juste au milieu du boulevard, ici, numéro 6.
Boulangerie artisanale.
Alors, on est arrivé à la boulangerie Carton. Et puis, évidemment, c'est indiqué sur la vitrine, on ne peut pas le rater. Premier prix du concours du meilleur croissant au beurre du Grand Paris 2022.
Bonjour, Jean-Michel Carton.
Bonjour.
Enchanté. On est où ici?
Chez Carton Paris, en face de la gare du Nord.
Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici?
Ça fait 12 ans.
Est-ce qu'on peut voir juste comment ça se passe, jeter un œil?
On y va, c'est parti.
Ah là, on descend au sous-sol.
Exactement. Et là, on arrive dans le laboratoire de viennoiserie et pâtisserie.
Ah ben le voilà, il est en plein façonnage, monsieur.
Kier, qui est le chef tourrier.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qui nous réalise, comment dire, ces beaux croissants tous les jours. Et c'est dans cette partie-là que tout est réalisé. Nous, on travaille, comment dire, avec des meuniers sur la farine, donc les moulins bourgeois. On va travailler aussi avec le beurre Lescure en Poitou-Charentes AOP, qui est un très très bon beurre avec lequel on travaille depuis très longtemps. On va avoir après aussi tout ce qui est une petite matière première du croissant, donc le sel, la levure, le sucre bien sûr, les œufs qui sont aussi très importants en termes de fabrication, et la différence de qualité est assez visible.
Vous répercutez forcément la qualité de ces matières premières sur le coût, le prix pour le client?
Alors, on essaie au maximum de rester cohérent, mais oui, la matière première que l'on utilise est très noble et très chère, donc automatiquement on est obligé, comment dire, de le répercuter sur le prix du client.
Prix final?
Prix final 1,30€.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait les différentes étapes pour faire un croissant?
Alors, nous, on va travailler un croissant sur 3 jours. Donc, le moment où on va commencer le pétrissage, donc toutes les matières premières qu'on va utiliser, on va les mettre dans notre pétrin. Le lendemain, on va intégrer notre beurre dans notre pâte à croissant, le tourage, et qui va se faire tout au long de la journée avec des temps de repos bien définis. Et à la fin de ce process-là, on va conserver notre croissant sur des plaques au froid à 3 degrés pendant 24 heures pour que le lendemain, on puisse le faire pousser dans nos chambres de pousse et qu'il puisse aller au four. Donc là, en fait, on va mettre notre carré de beurre de 1 kg sur la pâte à croissant, sur tout le long, comment dire, du pâte. Alors là, ça passe au laminoir. Et là, on va faire... Tout doucement, on va descendre pour allonger en longueur notre pâton. Alors, on fait un tour double, un tour simple.
C'est le tourage.
Exactement.
Donc là, ça replie à nouveau.
Donc, plieur à la moitié, l'autre moitié au-dessus, en portefeuille. On le met en sachet, sur plaque, et ça retourne au frigo au moins pendant 2 heures pour la laisser reposer tranquillement.
Le vrai croissant artisanal s'inscrit sur un temps long.
Exactement.
Alors, vous avez dit que vous revendiquiez le fait d'être boulanger. Pour vous, le croissant, il appartient à qui ? Il appartient au pâtissier ou au boulanger ?
Pour moi, au boulanger. Parce que aujourd'hui, au CAP pâtisserie, on ne fait pas de croissant, mais au CAP boulangerie, on en fait. Le métier est plus dirigé vers la boulangerie en viennoiserie que vers la pâtisserie. J'irais même plus loin sur la viennoiserie. C'est que pour moi, le tourrier, c'est vraiment, comment dire, un métier à part. On a mélangé le tourrier un peu au boulanger, à tout le monde. Mais quand je vois Kier, par exemple, qui est tourrier ici, il ne fait que ça.
Vous sortez combien de croissants par jour ?
Là, on est à peu près sur 800-850 pièces par jour.
Ouh ! Et quand il en reste ?
Alors, quand il en reste, j'aime pas la poubelle. Donc, des produits, par exemple, comme les pains au raisin, on les donne à des associations. Mais par exemple, les croissants, on les récupère, on les met au froid. Et le lendemain, en fait, on les fait tremper pendant une heure dans un sirop. Et après, on les garnit avec de la pâte d'amande, petite frangipane, et avec de l'amande dessus, et qu'on repasse au four. Ça devient des croissants et des pains chocolat aux amandes. Et après, par contre, sur des produits où justement on utilise de la crème pâtissière ou des matières qui vont pouvoir tourner, où il va y avoir des œufs à l'intérieur, là par contre on prend pas de risque.
Et le croissant, jambon, fromage, béchamel, qu'on ne trouve plus ?
Alors, vous le retrouverez ici. Là par contre, c'est du croissant du jour.
Ça fait combien de temps que vous faites du croissant ?
Là, ça fait 5 ans.
Comment vous avez appris le métier ?
J'ai travaillé avec les parents en 16e. Là, je suis venu en 10e, gardien. Je travaille avec Jean-Michel Carton. Mon patron, il est très gentil.
Et de temps en temps, vous mangez un petit croissant ?
Oui, tous les jours, on déguste pour savoir quel niveau qu'on donne à client. Et s'il y a un petit souci, on découvre tout de suite.
Personne suivante ?
Déjà, je voudrais demander à Marie-Laure Fachet, qui connaît bien le sujet, de nous décrire ce croissant.
Il est très beau tout de suite, il nous fait de l'œil, quoi, en fait. Il est bien gonflé, il est bien régulier, il est brillant. Pas trop, parce qu'en fait, s'il brille trop, c'est un peu suspect. Ça veut dire qu'on va sentir plus le sucre que le goût du croissant. Donc déjà, cette belle brillance, une belle couleur aussi, une couleur régulière. Et puis maintenant, j'ai évidemment envie de goûter.
Et alors, raconte-moi un peu le cœur, comme ça.
Là, c'est magnifique, parce que ça raconte, en fait, ces 3 jours que ce croissant a vécu. Il y a un truc que j'adore, c'est mettre le nez au milieu de la mie. Et là, c'est juste un bonheur, quoi. C'est une odeur d'enfance, quoi. C'est un truc hyper agressif. La première mâche, on est sur la croustillance. Et ensuite, on vient sur quelque chose un peu plus moelleux, mais qui ne doit jamais tomber dans le pâteux.
Est-ce que tu valides ?
Complètement. Complètement, ouais. C'est un très, très bon croissant. Et ça me donne vraiment envie maintenant, à chaque fois que je vais descendre de mon train Gare du Nord, je pense que ça sera mon petit plaisir.
Bien sûr. Merci, Marie-Laure.
Merci François Régis.
Merci beaucoup. Hein.
Et merci à vous d'être venu en tout cas. On était très contents justement de vous accueillir.
Ce croissant tout frais qui ne sont pas de lune qui fondent dans la bouche. Ou à défaut de bouche dans l'œil du Parisien sans une thune et qui se couche. Les croissants de Paris sont pétris par la nuit.
Autre symbole de la viennoiserie parisienne, c'est la brioche. Alors évidemment, il y a dans toute la France des traditions briochères, mais Paris et sa région a ses propres recettes de brioche avec des formes et des techniques très spécifiques.
Oui, même si son origine est quand même controversée, hein, puisque on pense aujourd'hui que la brioche vient du verbe briller, qui est un verbe normand qui pourrait plaider pour son origine normande. Paris a 2 excellences briochères, la brioche de Nanterre et la brioche parisienne.
Donc il y a souvent un match entre les deux. Quelles sont les différences entre la brioche de Nanterre et la brioche de Paris ?
Alors, la brioche de Nanterre, c'est une brioche rectangulaire qui est constituée de 8 boules serrées en deux rangs. Elle serait la descendante des petits pains bénis que l'on avait coutume d'offrir aux chanoines de l'abbaye de Sainte-Geneviève de Nanterre, en souvenir des pains que l'on a offerts au 5e siècle à Sainte-Geneviève elle-même. Donc, c'est sa forme et la disposition des boules de brioche qui fait sa spécificité. Pour la brioche parisienne, elle apparaît au cours du XVIIe siècle. Les premières occurrences que l'on a sont de 1742 et la première représentation que l'on a, c'est celle du fameux peintre Chardin en 1763 et qui a créé toute une petite continuité en peinture, hein, puisque on a des tableaux impressionnistes, Picasso et même Henri de Varroquier qui vont reprendre ce thème de la brioche parisienne dans des natures mortes.
La célèbre brioche de Chardin, un tableau qui date de 1763, est d'ailleurs accroché au Louvre. Hein.
Exactement, elle est au Louvre. Cette brioche parisienne classique, elle est constituée de deux boules superposées. Hein. La grosse boule est cannelée et elle supporte la petite. Elle est faite avec du beurre, des œufs, du lait, de la farine, du sucre, du sel, de la levure. Et la particularité, c'est que on la badigeonne à l'œuf pour que la pâte dore pendant la cuisson.
Entre brioche de Nanterre et brioche parisienne, Stéphane Solier, vous avez choisi votre camp ?
Ah, moi, j'ai un petit faible pour la brioche parisienne.
Et puis vous mettez de côté le Paris-Brest, là, il en reste qu'un, je ne vais pas le rater celui-là. Je le prends.
Paris avec un P comme
pâtisserie.
Eh oui. Paris, capitale mondiale des gâteaux tout de même, Paris a vraiment sacré le sucre tout au long de son histoire. On a presque le sentiment, Stéphane Solier, que tout ce qui est sucré ou presque, les techniques, les savoir-faire, les recettes, a été inventé à Paris.
Si je vous donne une petite liste de pâtisseries, vous allez me dire quel est le point commun. Le Saint-Honoré, le Paris-Brest, le Millefeuille, l'île flottante, le Baba au Rhum, le Financier, l'Opéra, le Manqué, la tarte bourdaloue, le moka, la galette des rois, toute la famille des choux, chouquette, croque-en-bouche, éclair, religieuse, salambo, profiterole.
Non, je t'ai plus.
Le macaron parisien. Quel est le point commun ? Ils ont tous été créés, inventés, façonnés à Paris.
À quand remonte cette stupéfiante passion parisienne pour le sucre et pour la pâtisserie ?
En fait, à côté des préparations en pâte salée notamment, qui donne son nom à son métier, le pâtissier crée depuis le Moyen-Âge une variété de mets sucrés. Si on prend par exemple l'estampe d'Abraham Boss, qui s'appelle « Le pâtissier », estampe de 1632-1633, on a bien sous cette estampe un texte qui résume la diversité des productions du pâtissier de l'époque. Alors pâtissier qui fait des pâtés en croûte, des pâtés croûtes, mais aussi, et je cite, « des macarons, des darioles, des gâteaux d'hiver, des rissoles, du biscuit et des petits choux ». Les Parisiens peuvent, dès le Moyen-Âge et au XVIIe siècle, goûter à ces délices auprès des marchands ambulants, mais aussi, pour les plus aisés, dans des boutiques spécialisées. Donc on voit que, historiquement, Paris a déjà un goût pour le sucré. Au sein des élites, en fait, la concentration des plaisirs sucrés à la fin du repas va s'accroissant. Au cours de l'époque moderne, quand on dit époque moderne, on pense au XVIIe et XVIIIe siècle. Hein. Bien sûr, il y a au cours du repas le service qu'on appelle des entremets, qui est entre deux services, qui est composé déjà de sucré et de salé. Et dans le sucré, on a déjà la plupart de nos pâtisseries actuelles, hein, les tartes, les beignets, les gâteaux. Mais le service final, en quelque sorte, qui va prendre le nom de fruits ou de dessert, va comprendre de plus en plus de parties sucrées, des compotes, des confitures, des biscuits, des petites pâtisseries sans beurre au départ, des crèmes fouettées, des fruits au naturel pour lesquels les Parisiens ont une passion. En fait, la place prise par le sucre comme séquence à part entière d'un repas prépare l'avènement du règne du pâtissier parisien, spécialiste S-gourmandise, au 19e et au 20e siècle.
Alors, monsieur Carême, tout est prêt ?
Faut bien monter.
Quelle fumée.
Intéressons-nous justement à présent à un grand nom de la pâtisserie qui a laissé sa trace dans l'histoire de notre gastronomie et qui a certainement, on va le voir, influencé le goût sucré des Parisiens. C'est Antonin Carême. Pour évoquer ce grand talent parisien, Marie-Pierre Rey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous avez publié en 2021 ce livre que j'ai à mes côtés, avec lequel je me suis régalé, Le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême, aux éditions Flammarion. Pourriez-vous, Marie-Pierre, nous resituer ce grand personnage dans l'histoire de notre gastronomie ? Commençons par dire que nous sommes au 19e siècle.
Oui, alors en fait, il est né en 1783 et il va commencer à être connu dès l'âge de 20 ans, donc très très jeune, lorsqu'il entre en fait au service de Talleyrand, qui est à ce moment-là ministre des Relations extérieures, en 1803. Et le jeune Antonin Carême va éblouir absolument le ministre et participer donc à la diffusion de cet art gastronomique et en particulier de ce goût pour le sucré. Ce qui est intéressant avec Carême, c'est que toute sa vie a été en fait placée sous le saut du travail, hein, puisqu'au départ c'est un enfant abandonné, placé à l'âge de 11 ans, d'abord chez un boulanger, et puis où il fait ses premières classes, et puis ensuite, eh bien, à l'âge de 16 ans, comme il est déjà très ambitieux, il quitte son boulanger pour un des plus grands pâtissiers de la capitale, où il devient d'abord second tourier, hein, et au bout d'un mois à peine, premier tourier, c'est-à-dire qu'en réalité, ce jeune homme a une maestria de la pâte feuilletée qui éblouit et qui va commencer à lancer sa notoriété. Mais surtout, il ne va pas servir que Talleyrand, puisque très très vite, hein, entre l'âge de 20 et 30 ans, mais sa carrière va s'internationaliser d'une façon extraordinaire, puisqu'il va servir non seulement Talleyrand, mais également Murat, le régent futur roi d'Angleterre, George IV, qui était un gourmet, voire même un glouton invétéré, le tsar Alexandre Ier en 1814-1815, quand le tsar est à Paris après les défaites napoléoniennes, et puis pour finir, James et Betty de Rothschild, à Paris. Donc c'est dire qu'il règne totalement en maître sur l'art de la gastronomie à la française, sur tout le premier tiers du 19e siècle, à Paris, où il s'ancre, mais également donc dans toute l'Europe, car il accompagne le tsar au congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818. Il sert également l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Vienne en 1821, où il invente la toque, ce qui est aussi un autre fait.
Un grand fait d'armes.
Voilà, un grand fait d'armes d'Antonin Carême.
On parle donc d'un personnage parisien, parisien de naissance, d'ailleurs, il est né rue du Bac.
Oui, il naît rue du Bac dans une baraque de chantier où son père était manœuvre. C'est dire qu'il vient vraiment d'un milieu extrêmement pauvre, et c'est parce que son père ne peut pas le nourrir qu'il le place d'abord chez un aubergiste, hein, où il survit, pourrait-on dire, et puis ensuite chez un boulanger où il fait vraiment ses classes.
Mais il a connu donc, en petit parisien, une grande carrière européenne. Les deux premiers livres qu'il a écrits, Marie-Pierre Rey, sont « Le pâtissier royal parisien » et « Le pâtissier pittoresque ». Ça date de 1815. Quel est le contenu et l'ambition de ces deux ouvrages, sachant que le mot pâtissier n'est pas exactement entendu de la même manière?
Alors, il faut absolument se rappeler qu'effectivement, en 1815, le pâtissier, c'est celui qui travaille les pâtes. Autrement dit, elles peuvent être salées ou sucrées, donc il n'y a pas... le mot pâtisserie n'est pas encore associé, comme aujourd'hui dans notre imaginaire,
à l'art du sucré.
À l'art du sucré. Et ça, c'est très important parce que, effectivement, Carême, entre autres choses qu'il va inventer, inventera le vol au vent, qui est en fait, au départ, une composition salé. Et il est également pâtissier, il fait des tourtes magnifiques aux champignons, aux légumes, à la viande, bref. Et dans ces deux ouvrages, en fait, qu'il publie la même année, il y a des redondances, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le pâtissier pittoresque, il livre beaucoup de croquis, parce qu'il considère qu'il faut pouvoir composer de bonnes choses, mais également de très belles choses. Et donc, il y a beaucoup de planches qui ressemblent presque à des traités d'architecture, dont il s'inspire pour justement que ces belles réalisations puissent être confectionnées dans les règles de l'art architectural. Et puis, dans l'autre ouvrage, Le pâtissier royal parisien, hein, puisque c'est le titre initial, et il y a un sous-titre qui est intéressant aussi, Traités élémentaires et pratiques de la pâtisserie ancienne et moderne, de l'entremets de sucre, des entrées froides et des socles, suivi d'observations utiles au progrès de cet art. Et là, c'est intéressant parce que on voit le détail du travail de Carême. Et qu'est-ce qui va faire sa notoriété dans ses livres ? Il est le premier à véritablement donner étape par étape le déroulé nécessaire à la confection des recettes en détaillant également les temps de cuisson et en donnant des détails sur la puissance du four. Hein. Alors à l'époque, on dit le four doux, etc., etc. Mais il est vraiment le premier à avoir travaillé dans cette voie. Et ça, c'était extrêmement précieux parce que ces livres pouvaient trouver une audience relativement large puisqu'il y avait à la fois les apprentis cuisiniers et puis également les gourmets qui vont trouver matière à travailler dans les deux cas.
Antonin Carême écrit en 1815 dans Le Pâtissier pittoresque « Les beaux-arts sont au nombre de cinq, à savoir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique, l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. » Ça veut dire que son travail, notamment en ce qui concerne des créations sucrées, avait une véritable ambition architecturale et esthétique.
Oui, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est repéré lorsqu'il travaille chez Avis. Il met en vitrine des pièces montées, à l'époque on dit croque-en-bouche, qui sont absolument extraordinaires, qui font plus d'un mètre de hauteur, hein, avec des compositions, des pagodes chinoises, des temples grecs, etc. etc. Donc des objets, pourrait-on dire, de beauté, qui se mangent. Et d'où cela vient-il ? Eh bien, ça vient du fait que Carême se définissait lui-même architecte par vocation, cuisinier par profession. Et donc, il a véritablement transposé sa passion de l'architecture dans l'art de la pâtisserie, et ça va subjuguer les contemporains. Et donc, on a des œuvres magnifiques, et qui sont toujours caractérisées par des couleurs très douces. Pastel, il aime, voilà, les associations, ce qu'il appelle l'harmonie. Donc, pour lui, la cuisine, et surtout la pâtisserie, elle se goûte, mais elle se mange aussi avec les yeux, pourrait-on dire.
Venons-en à quelques autres grandes inventions d'Antonin Carême, surtout au chapitre sucré. On a évoqué le croque-en-bouche. Une technique qui n'est pas forcément sucrée, mais qui est beaucoup utilisée en pâtisserie, c'est le feuilletage. On l'a dit avec le vol au vent, mais le feuilletage de manière générale, la pâte feuilletée, ça c'est un apport d'Antonin Carême.
Ah oui, c'est une de ses... Il s'est fait repérer de cette manière, et il a été l'inventeur, pourrait-on dire, du feuilletage à 12 tours, hein, c'est-à-dire vraiment une technique très très élaborée, et qui rendait le feuilletage très aérien. Souvent on avait tendance parfois à dire que le feuilletage était lourd. Avec Carême, on a une sensation de légèreté en bouche, hein, c'est ce que disent les contemporains, et là on ne peut que les lire, on ne peut plus goûter ces merveilles, mais c'est le ressenti qui était le leur. Et de ce point de vue-là, effectivement, il va contribuer à améliorer substantiellement le feuilletage, mais on lui doit d'autres inventions culinaires. Alors, il y a une part d'invention et une part de perfectionnement, une part d'innovation. Donc, il y a des recettes qu'il a véritablement inventées, et puis celles qu'il a totalement transformées. Ainsi, par exemple, de la charlotte qu'il appelle à la parisienne, justement, qui est celle que l'on connaît aujourd'hui, et qui est au départ un gâteau anglais, qui est une sorte de pudding un peu lourd, il faut bien le dire, qu'on mangeait à l'heure du thé, mais qui n'a rien à voir avec notre charlotte. Et puis, il a également beaucoup retravaillé la pâte à choux et a été à l'origine des profiteroles telles qu'on les connaît aujourd'hui, à telle enseigne que dans les livres de Carême qui ont été traduits en langue étrangère, que ce soit en anglais ou en russe, par exemple, eh bien, le mot profiterole est resté en français. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut se rappeler que les livres de Carême connaissent pour l'époque des tirages extraordinaires. Ils sont publiés à 5000 exemplaires, ce qui fait rêver aujourd'hui beaucoup de monde, et 5000 exemplaires, donc en langue étrangère, ce qui va conduire là aussi à une sorte de diffusion en Europe d'un goût à la française et d'un goût français, et en même temps une diffusion d'un certain mot technique du langage culinaire qui vont rester en français et qui participent aussi d'une sorte de soft power, hein, d'un outil d'influence à la française, et ça me paraît important à dire.
Les petits fours nous viendraient aussi d'Antonin Carême ?
Absolument. Alors à l'époque, les petits fours sont des petits formats, des petites bouchées, hein, qu'on cuit à petit four, c'est-à-dire quand le four est déjà éteint. Mm-hmm. Quand on a cuit des grosses pièces, eh bien évidemment le four reste encore chaud, et donc pour ne pas perdre cette chaleur, on va faire cuire des petits fours. Et il va rencontrer la mode de l'époque, parce que la mode de l'Empire, les robes sont très cintrées, et évidemment les femmes vont se soucier de leurs lignes. Et les petits fours présentent évidemment l'avantage de séduire en bouche sans évidemment se transformer par un désastre sur la balance. Et donc c'est ce qui expliquera aussi le succès de ces petits formats qui vont faire les grandes heures des pâtisseries, en particulier à Paris, au détriment des confiseurs, puisqu'à l'époque, hein, il y avait une sorte de rivalité entre confiseurs et pâtissiers. Et toutes ces nouvelles pâtisseries, plus ces petits fours, eh bien, vont être à l'origine de l'explosion du nombre de pâtisseries à Paris.
Marie Pierret, Antonin Carême a clairement augmenté la dose de sucre dans les menus parisiens de l'époque.
Oui, ça c'est une autre de ses spécificités. Quand on compare avec les livres de cuisine écrits par ses contemporains, on s'aperçoit que les autres, par exemple, pour un menu de 56 plats, ne dépassent pas une dizaine, même moins d'une dizaine de plats sucrés. On est autour de 7-8. Tandis que lui, systématiquement, dans ses repas, englobe presque le cinquième de plat véritablement sucré, donc de dessert. Donc ça, c'est vraiment un homme de transition de ce point de vue-là entre la cuisine d'Ancien Régime et puis la cuisine dite bourgeoise, où le dessert sera vraiment un aspect du dîner incontournable.
Et des desserts qui, grâce à Antonin Carême, incluent de plus en plus des ressources, on pourrait dire, exotiques.
Absolument. Il profite justement de tout ce qui arrive à Paris, et en particulier de ces nouvelles ressources que sont la vanille, le café, qu'il travaille donc dans les desserts, avec un certain nombre de crèmes, par exemple, que j'ai moi-même testées et dont je peux vous dire qu'elles sont vraiment extrêmement bonnes. Il a une très bonne recette, par exemple, aussi de crème dessert au thé, thé noir et caramel, donc, à mon avis, relativement moderne.
On salive. Marie-Pierre, vous restez avec nous ?
Volontiers.
Parce que j'ai une petite surprise que je vous sers sur un plateau.
Ah ah !
Raguenaud, mon ami, pâtissier des poètes.
Trop d'honneur.
Mécène que vous êtes. Tous ces messieurs chez lui se servent à crédit.
C'est que je suis poète aussi.
On me l'a dit. Votre place aujourd'hui, là, voyons, entre nous, vous a coûté combien ?
4 flans, 15 choux.
Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Fiona Leluc, bonjour.
Bonjour.
La femme par qui le régal est arrivé à Paris. Incroyable pâtissière qui fait vraiment saliver les Parisiens à travers... une enseigne, Bon Temps, et deux adresses que vous nous rappelez ?
Tout à fait, au 57 rue de Bretagne, qui est l'adresse historique, et la nouvelle adresse, le 23 rue Poncelet, où on fabrique toujours les gâteaux sur place.
Vous êtes d'origine libanaise, votre aventure a commencé en 2015.
Ouais.
Et ça a été un succès dès le départ, avec des créations, des spécialités qui... ont vraiment marqué le paysage sucré à Paris.
Un succès auquel je ne m'attendais pas, pour être honnête. J'ai vraiment fait les choses avec cœur et passion et j'ai voulu faire les gâteaux que j'aimais, avec les textures que j'aimais, pas forcément pour la technique, mais plus pour le goût. Et effectivement, ça a tout de suite beaucoup plu.
Tarte aux fruits, sablé, citez-nous quelques autres desserts signatures.
Donc la pâte sablée, effectivement, à la fleur de sel, ultra friable, qui est vraiment la signature de Bon Temps. Et effectivement, j'affectionne particulièrement les fruits. J'aime travailler les fruits de saison. Ça apporte la couleur, parce qu'on ne met pas de colorant. Donc ça nous apporte des couleurs, des saveurs. Et en fonction de l'année, les envies changent. Et on suit en fait les fruits de saison.
Vous nous avez apporté évidemment sur ce plateau une grande spécialité parisienne. Alors là, je peux vous dire que ça fait saliver. Il n'y a que des sourires dans notre studio. C'est
le flan. Effectivement, le flan de Bon Temps avec la pâte sablée, un flan ultra crémeux et très vanillé, avec de la vanille de Madagascar, et avec une texture assez finalement crémeuse et légère. Donc le but, c'était un peu de faire le flan, moi tel que je l'aime, pas trop pris, pas trop figé, et avec le bon goût de vanille et le bon goût de lait.
Voilà, on parlait de ressources exotiques, il y a justement de la vanille, on va vous laisser le découper quand même.
Avec plaisir.
Vous essayez de vous dépêcher, s'il vous plaît. Il fait vraiment envie. Bah, le flan parisien, Stéphane Solier, on dit souvent flan parisien, flan pâtissier, alors que le flan, là encore, est évidemment un savoir-faire que l'on trouve dans de très nombreuses régions françaises, mais il y a une école parisienne du flan.
Oui, alors le flan, si on regarde son nom et la diversité des recueils de cuisine, on sait que le flan existe depuis le Moyen-Âge sous la forme de flaons, flanciaux, donc on les trouve dans les textes du XIIe, les flanciaux dans le Ménager de Paris, donc on sait déjà qu'à Paris, on mange ce que l'on appelle des flans, flanciaux, flaons.
Tout ça à base d'œufs,
de sucre. Le point commun, c'est une crème cuite d'œufs avec du lait, cuite ou recuite d'ailleurs. On a des témoignages proches du flan, comme la Talmouse, hein, qui prévoit justement cette préparation aux œufs et au fromage, ou à un apport laitier, dans une croûte pétrie d'œufs et de beurre. Et donc le flan pâtissier, puis... parisien va avoir la spécificité d'enfermer l'appareil à flan donc œufs, lait, dans
sucre.
Une et sucre.
Tant qu'à faire.
Tant qu'à faire. Dans une pâte, généralement plutôt une pâte brisée, dans laquelle on va pouvoir faire cuire et recuire cette préparation pour pouvoir la couper et la servir à la portion.
Fiona Leluc, flan pâtissier, flan parisien, vous vous revendiquez quelle appellation ?
Alors, moi, effectivement, non, flan parisien, parce qu'on a justement notre contenant et la pâte sablée. Pour avoir cette fleur de sel et puis cette texture avec le côté crémeux, mais on est aussi, au départ, très crème caramel, mais ça devient, dans ces cas-là, un autre dessert. Voilà.
Donc la pâte du flan parisien, ça peut être un feuilletage.
Ça peut être un feuilletage, être une pâte brisée, exactement.
Et ici, elle est sablée.
Et effectivement, moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, le flan, il est dégusté même dans les pays anglo-saxons et dans le monde. En Angleterre, c'est avec justement la pâte sablée, je crois. En Chine également. Et c'est vraiment un dessert qui, finalement, conquit le monde.
Imaginons quand même cette part de cake avec un cœur particulièrement crémeux, une épaisseur de quelques centimètres, les petits points de la vanille, on sent que là, la vanille est particulièrement abondante, et puis ce joli bronzage à la surface, hein. On a vraiment une coloration tout à fait délicate, la présence de la pâte également, on y va
On y va, et on voit les petits points de vanille sur la... Ouais.
Alors on l'a appelé un amour de flan.
Waouh.
Délicieux.
Oh c'est coquin.
Oh c'est cochon même. C'est extraordinaire. Moi, ce que j'aime dans le flan parisien, c'est de trouver justement la parfaite texture, pas trop figée.
Ouais.
Je suis souvent déçu par le côté gélatineux.
Là, on est plutôt dans le crémeux. Hein.
Exactement, parce qu'au départ, moi, j'aime la crème caramel, mais la crème caramel crémeuse. Mmh. Et le but, là, c'était d'avoir quelque chose de délicat, de léger, le bon goût de lait, le bon goût de vanille, les bons œufs. Voilà.
C'est très lacté.
Exactement, parce que dans le flan, on met des jaunes d'œufs et des œufs entiers. Plus vous allez mettre d'œufs entiers, plus ça va laisser le lait et la vanille s'exprimer. Plus vous mettez des jaunes, plus vous allez sentir en fait le goût de l'œuf en fait dans l'appareil à flan.
Vous mettez des jaunes,
du lait,
du beurre,
des œufs entiers. Non, pas de beurre. Le beurre en fait fige, donc avec le froid, le beurre viendrait donner un côté lourd. Si on peut finir la part justement facilement, c'est parce que c'est principalement du lait. Et c'est ce qui fait que le flan, justement, va être léger. Et on ne met pas de poudre à flan, effectivement, non plus, dans notre recette du flan.
Marie-Pierre ?
Oui, je le trouve excellent et pas trop sucré.
Alors,
et ça, c'est quelque chose qui nous sépare du 19e siècle. Les hommes, à l'époque, les hommes et les femmes de ce temps, aimaient beaucoup le sucre. Et finalement, le sucre avait parfois tendance à être trop présent. Le vôtre, là, c'est un parfait équilibre.
Ben voilà, on cherche l'équilibre. Voilà. Parce que parfois, il y en a qui décident de mettre très peu de sucre. Et il faut du sucre, quand même, dans les desserts, parce que c'est un exhausteur de goût. Mais il ne faut pas trop pour que ça ne vienne pas saturer le palais.
C'est ça.
Et que ça permette vraiment à toutes les saveurs de s'exprimer.
Et puis la stratégie, je trouve, elle est très intéressante, c'est qu'avec la fleur de sel, il y a un petit combat qui se joue, et donc même le côté sucré, en fait, s'annule avec la pâte qui est le sablé, est juste sublime.
Merci.
Vous vendez cette création orgiaque à la part ou il faut l'acheter entier ?
Alors non, on peut la trouver à la part, mais elle est, pour être honnête, principalement en entier, parce que justement, on fait le flan tous les matins. On veut que justement, il soit dégusté le jour même. Et donc, pour qu'il y ait le plaisir de retrouver cette texture, on préfère le vendre en entier. Voilà.
Le flan pâtissier ou parisien, signé Fiona Leluc, chez Bontemps. Fiona, pour conclure, quelle vision vous portez sur la scène parisienne actuelle en matière de pâtisserie ? Est-elle toujours aussi dynamique ?
Alors, elle est dynamique, effectivement. Je trouve qu'on a de plus en plus d'offres avec des personnalités différentes à chaque fois. La pâtisserie française, c'est quand même la meilleure pâtisserie du monde. Hein. Faut pas avoir peur de le dire. Et je trouve qu'il y a une variété assez exceptionnelle, que ça soit dans les designs des gâteaux, dans les goûts des gâteaux, dans les textures des gâteaux. Chacun va apporter sa personnalité.
Et c'est une scène pâtissière qui, en plus, se féminise à vue d'œil et vous en êtes évidemment une ambassadrice.
Alors, moi, j'ai quand même envie de dire que c'est assez normal, en fait, parce que honnêtement, c'est très souvent les mamans, les femmes qui font de la pâtisserie. C'est vraiment un métier qu'on se transmet de mère en fille. Et je trouvais ça un peu dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes. Et là, je trouve que c'est normal que les femmes puissent s'exprimer dans la pâtisserie.
Beaucoup de talent au féminin dans la pâtisserie parisienne.
Oui, si on regarde le panorama parisien actuel, les Claire Heitzler, Nina Métayer de Délicatisserie, Myriam Sabet de la Maison Aleph, les femmes tiennent le haut du pavé à Paris et elles ont bien raison.
Et de manière générale, vous diriez que la pâtisserie parisienne est toujours sur le devant de la scène mondiale ?
Oui, Paris reste un pôle d'excellence en termes de formation boulangère et pâtissière, mais aussi d'offres de tous ces produits nouveaux ou qui s'inscrivent dans la tradition. La réputation de Paris draine un nombre très conséquent de visiteurs dans une perspective de tourisme gastronomique, on pourrait dire même tourisme pâtissier. Il n'y a qu'à voir les files d'attente devant les pâtisseries à Paris, files d'attente composées de Japonais, de Sud-Américains. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, avenue de l'Opéra, il n'y a qu'à voir la file d'attente devant la boutique de Cédric Grolet, qui a un nombre incroyable de followers sur Instagram, je crois 7 millions, c'est une véritable pop star de la spatule. Bref, même au cinéma, si on veut regarder l'incroyable Baba au Rhum du Festin de Babette, alors c'était dans les années 80, mais on peut aller plus près, Sofia Coppola a mis en avant certains totems de la pâtisserie parisienne dans son film Marie-Antoinette, on pense évidemment aux macarons parisiens, mais aussi aux choux, aux croque-en-bouche, aux pièces montées. On peut penser à la Reine de Saba, aux trois chocolats de Julia Child dans le film Julie et Julia, de Nora Ephron en 2009. La pâtisserie parisienne tient le haut du pavé.
Et je tiens à rajouter qu'elle attire aussi beaucoup les Parisiens, pas seulement les touristes. On a énormément de Parisiens qui sont prêts à traverser Paris eux-mêmes pour aller trouver les pâtisseries qu'ils souhaitent. Et je trouve d'autant plus, dans la période actuelle, on a besoin de se remonter le moral. Et en fait, il n'y a rien de plus simple que de la pâtisserie.
Et vous avez raison, en fait, on s'aperçoit dans les rues de Paris, on reconstitue une sorte de rituel du dimanche
Exactement,
avec les boîtes à pâtisserie. Et c'est très très bien.
Bah, ça tombe bien, on part tous à la pâtisserie. Merci.
Régalez-vous. Écoutez, mes amis.
Oui, oui, nous t'écoutons.
Comment on fait les tartelettes amandines? Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez alors.
Au menu du prochain et dernier épisode, Paris, terre d'affluence et d'influence. Je vous raconterai avec Loïc Bienassi et Stéphane Sollier comment la capitale a construit sa légende gastronomique avec l'aide des Alsaciens, des Auvergnats, des Bretons et comment elle a nourri son génie gastronomique de cuisine et de talent du monde entier. Paris Ripaille est un podcast original de France Inter avec le Centre des Monuments Nationaux.